Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, la folie a un passé, mais a-t-elle un avenir? Et avec elle, la psychiatrie. Alors que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a récemment appelé à préserver les moyens de la discipline, il appelle, avec ses co-auteurs, à en fonder une nouvelle. Notre invité, le psychiatre Patrick Lemoine, ancien praticien hospitalier, professeur associé à l'université de Pékin. Ce spécialiste du sommeil co-dirige aujourd'hui avec le neuropsy Boris Cyrulnik, chez Odile Jacob, une histoire de la folie avant la psychiatrie, jalonnée de dérives et de déroute, de maltraitance et de défaillance culturelle. De ce passé, les auteurs poussent la réflexion jusqu'à repenser le sens de la psychiatrie et l'avenir d'une discipline longtemps considérée comme la vache folle, rarement sacrée, de la médecine. Bonjour Patrick Lemoine.
Bonjour Olivia.
On est tous le fou de l'autre. D'ailleurs, vous en donnez une définition toute simple de cette folie. Nous appelons folie le monde mental d'un autre que nous ne comprenons pas. La folie, c'est celui, ou le fou, c'est celui qui sort de notre entendement, ajoute Boris Cyrulnik. Nous n'entendons que ce qui nous est familier. C'est ça le problème. Une définition toute simple de la folie comme cette chose qui arrive à l'autre et qui est hors norme.
Oui, c'est d'ailleurs pas pour rien que autrefois les psychiatres s'appelaient des aliénistes, puisque aliéniste, ça vient de alienus, qui est du latin, qui veut dire autre. Donc tout ce qui n'est pas moi, c'est forcément fou, puisque l'autre ne pense pas comme moi, donc il n'est pas normal. Et à partir du moment où on comprend cette chose, on réalise que très souvent, on prend pour fou des gens qui sont juste d'une autre culture, ou qui ont une autre opinion. Hein, par exemple, un des chapitres où on parle, où sous Staline, on parlait de la schizophrénie torpide, ou schizophrénie blanche, c'était des gens qui n'avaient aucun symptôme. Ils n'avaient rien, aucun symptôme. Simplement, comme ils ne pensaient pas comme la pensée soviétique, donc ils voulaient pas le bien de l'humanité, donc forcément ils étaient fous, donc forcément fallait les envoyer au goulag. Et là, c'est l'exemple typique de l'autre qu'il faut sacrifier.
Une définition d'autant plus difficile que le fou, c'est celui dont le comportement, vous l'évoquez, s'écarte de la norme, qui a un comportement anormal. Or, la norme est culturelle. Est-ce à dire qu'il y a autant de folie que de culture, si la folie est le produit de nos cultures?
Alors, j'irai pas tout à fait aussi loin, parce qu'il y a quand même aussi le poids de la génétique, le poids de la biologie, et on sait qu'une maladie comme la schizophrénie, quelle que soit l'époque, quelle que soit la culture, c'est 1% de la population. Le trouble bipolaire, quelle que soit l'époque, quelle que soit la culture, c'est 2%. Donc il y a quand même des invariants. En revanche, on pourrait prendre pour schizophrène des personnes qui sont originales et qui sont d'une autre culture. On pourrait prendre pour bipolaire également des personnes qui ne se comportent pas comme nous. Et très souvent, donc, la schizophrénie peut prendre un masque différent en fonction de la culture et en fonction de l'époque. Il y a une chose très, très amusante. Autrefois, on parlait de la machine à penser de Tosk. C'est-à-dire des personnes qui étaient persuadées que dans leur cerveau, on avait mis une machine à penser qui leur envoyait des pensées. On appelait l'automatisme mental. Quand j'étais interne, ça fait quelques années, eh bien, c'était un petit peu plus technologique. Et je me rappelle un patient qui m'expliquait qu'on lui avait greffé un magnétophone entre primaire et durmère. Et maintenant, on voit des patients qui vont nous sortir de la réalité virtuelle avec des hommes augmentés. Et que s'ils ont des voix, bah, c'est simplement qu'on leur a mis, on leur a implanté un logiciel dans leur cerveau. Donc, l'habillage, on va dire, est culturel. Mais la maladie est la même.
Alors justement, maintenant qu'on a l'imagerie cérébrale, que les neurosciences ont réponse à tout, elles nous disent quoi de la folie? Qu'est-ce que ça nous permet de voir, hein?
Alors là encore, tout dépend de ce qu'on appelle folie. Si on prend le prototype de la folie qui s'appelle la schizophrénie, où il y a un délire en général de persécution, des hallucinations, parfois des comportements extravagants, souvent un repli, il est clair que l'imagerie médicale peut donner en effet des évidences, au sens américain, des preuves que par exemple un schizophrène c'est quelqu'un dont le fonctionnement de ce qu'on appelle le lobe préfrontal du cerveau est réduit. Nous sommes, quand on est en bonne santé, des animaux préfrontaux. Le propre de l'homme, c'est d'être préfrontal. C'est le libre arbitre, c'est la créativité, le lobe préfrontal. Et malheureusement, pour des raisons liées à leurs 18 premiers mois de vie, au cours duquel leurs neurones ne vont pas migrer correctement jusqu'au préfrontal, fait que on observe des syndromes schizophréniques. Donc ça, c'est vrai que c'est des avancées assez récentes qui, pour le moment, d'ailleurs, ne débouchent pas sur des prises en charge différentes, mais qui aboutissent quand même à une meilleure compréhension des mécanismes intimes.
Et donc à une meilleure définition de la folie?
Pour moi, la folie, c'est la souffrance. soit la souffrance que le sujet éprouve, parce que c'est quand même pas agréable d'être en marge, d'être frappé d'ostracisme, éventuellement en période de crise d'être massacré, comme on a vu en France et en Allemagne au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la souffrance, elle peut être en moi, parce que je suis déprimé, je suis mélancolique, je suis schizophrène, je suis paniqueur, j'ai des tocs, etc. Mais parfois, pour un paranoïaque, la souffrance, elle est projetée chez l'autre. Par exemple, quelqu'un qui a un délire de jalousie ou un délire érotomaniaque, c'est pas lui qui souffre, c'est l'entourage. Mais il y a toujours une souffrance. Et s'il n'y a pas de souffrance, pour moi, il n'y a pas folie. En tout cas, j'ai rien à en dire, parce qu'un médecin, il est là juste pour aider les personnes qui souffrent. Sinon, ben, il est en dehors de sa mission.
Quand est-ce qu'on a vraiment commencé à pathologiser la folie, à vouloir la médicaliser aussi ?
On retrouve quand même déjà du temps d'Hippocrate des choses intéressantes. J'aime souvent parler de la première expertise psychiatrique légale de l'histoire lorsque il y avait un philosophe qui s'appelait Démocrite. Qui habitait à Abder, et les habitants d'Abder ont saisi le plus grand médecin du temps, Hippocrate, en disant « il rit tout le temps, il va pas bien ce mec, il rit tout le temps, ça va pas ». Et Hippocrate est venu, il a réalisé son expertise et il a dit « le fou c'est pas lui ». Parce qu'il rit, parce qu'il constate, en bon philosophe, votre agitation stérile dans ce port d'Abder, où tout le monde est agité, tout le monde bouge tout le temps. Et donc, il a renvoyé les Abderitains dans leurs 22 mètres. Et on voit donc que quand même, quelqu'un qui se comportait différemment, qui riait de tout, moi je pense que c'était quand même un état maniaque, contrairement à Hippocrate, les gens, ça les inquiétait. Et régulièrement, on retrouve quand même des analyses psychiatriques. Par exemple, du temps de Bagdad, chez les Arabes, on décrivait parfaitement bien la mélancolie. On a même fait les premiers hôpitaux psychiatriques de l'histoire. On est, je crois, au 11-12e siècle à Bagdad. Puis après, c'est arrivé en Tunisie, en Espagne, puis c'est remonté chez nous. Et après, l'Inquisition, par exemple, s'est beaucoup posé la question de la folie. Parce qu'un inquisiteur, faut pas oublier que c'était pas quelqu'un qui était arbitraire. Il y avait un droit inquisitorial terrible, mais qui existait. Ils avaient un but, c'était sauver l'âme des gens.
Donc l'inquisiteur était un être rationnel.
Parfaitement rationnel, parfaitement logique, parfaitement cohérent, peut-être un peu parano quand même, mais parfaitement logique. Et leur problème, c'était de distinguer les gens possédés des fous. Donc ils avaient en général une femme, la malheureuse, sorcière, qui avait des convulsions. Et à ce moment-là, ils avaient inventé, avec une logique scientifique incroyable, une technique de double aveugle versus placebo. Ils prenaient soit des ossements de reliques consacrés, validés par le Vatican, et puis ils prenaient des ossements banals dans un cimetière. Et un assistant, qui était aveugle par rapport aux ossements, passait les ossements donc devant la convulsionnaire. Si elle convulsait devant n'importe quel ossement, c'est qu'elle était folle. Et si elle ne convulsait qu'avec les reliques, c'est qu'elle était possédée. Et là, c'était un one-way ticket pour le bûcher.
Mmh. Ouais. Mais vous qui êtes l'auteur, justement, Patrick Lemoine, du mystère du placebo, il y a eu quand même beaucoup de traitements de la folie qui étaient très... Quel est l'adjectif pour placebo? Très... placeboïque, on peut dire?
Oui, je dirais bidon, mais bon.
Qui était quand même très bidon, qui reposait presque sur des recettes de grand-mère et oui. Avec les pires mélanges possibles, mais qui n'était pas traumatique, comme on a pu le voir par la suite. Parce qu'après, vous racontez, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à médicaliser, à vouloir soigner le fou à partir du moment où il nous a inspiré de la peur, où la folie a commencé à être crainte d'une certaine manière. Et il y a ce passé qui n'est pas aussi rose qu'on le dit de la folie. On enjolive beaucoup quand on raconte qu'avant les asiles, il y avait toujours un fou dans le village qui était libre de courir et qui était accepté comme tel, qui faisait partie du corps social. En fait, il y a à travers tous les descriptions que vous faites, chapitre après chapitre, il y a eu des méthodes qui étaient quand même extrêmement violentes.
Ah oui.
Les fous ont été chassés, ils ont été parfois emmurés. toutes ces idées folles pour soigner la folie. Vous pouvez nous en donner quelques-unes ?
Mais c'est vrai que notre société a une image romantique de l'idiot du village qui était bien toléré, qui était nourri, qui était un peu chaman éventuellement, qui était très bien toléré. Et toujours en Afrique noire, on a encore certains endroits où il y a toujours cette image de l'halluciné qui est une espèce de dément à bonnes influences ou au contraire qui va repousser les mauvaises influences. Et donc, on trouve ça très bien, la tolérance africaine à la folie. Oui, sauf que certains confrères africains m'ont dit, vous nous faites quand même assez rire, vous, les occidentaux, parce qu'en fait, dans ces endroits-là, ça marche comme ça, sauf que si le fou devient un peu agressif, s'il s'intéresse d'un peu trop près aux petites filles ou aux petits garçons, il l'emmène dans la savane et il fait les beaux jours des vautours et des hyènes. Donc, c'est pas si rose que ça. Il faut comprendre, et là-dessus, moi, je suis très René Girardien dans La violence et le sacré, c'est que dès qu'une société est en crise, il faut une victime sacrificielle. Et en général, c'est le fou qui est en première ligne. Et un des plus beaux exemples, c'est l'histoire du pharmakeion à Athènes. Lorsque Athènes avait un tremblement de terre, une peste, un ennemi qui arrivait, on prélevait un ou deux pharmakeion qui étaient des personnes qui étaient élevées, d'un élevage, où on prenait des fous, des clochards, des esclaves en fuite, tout ça c'était pêle-mêle, ils étaient très 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 bien traités. Et on en prélevait un ou deux, on le juchait sur un char où il était décoré, fêté, adulé. Le char, devant une foule en liesse, passait jusque dans les moindres recoins de la cité pour drainer les influences maléfiques. Et lorsque ce char avait terminé cette promenade initiatique sous les vivats de la foule, eh bien, les pharmakeion étaient soit sacrifiés, soit bannis. Ce qui, dans la logique, rappelez-vous Socrate d'Athènes, était la même chose, puisque le citoyen athénien était comme une abeille, il ne pouvait pas survivre loin de la ruche.
Patrick Lemoine, exorcisme, vous l'avez évoqué, on peut parler aussi de la castration, des castrations qui ont pu être pratiquées, ou encore des lobotomies. Et ça, c'est pas en Afrique, ça s'est passé ici.
Oh que non. Non, c'est sûr que la lobotomie a été, je dirais, peut-être le dernier avatar, puisque moi j'ai vu quand même, j'ai pas un âge si canonique que ça, j'ai vu, il existe toujours des personnes vivantes qui ont été lobotomisées. Moi, dans l'hôpital où j'ai travaillé pendant 25 ans comme chef de service, je pourrais vous citer des gens qui ont une soixantaine d'années qui, à 12-13 ans, étaient lobotomisés parce qu'ils n'étaient pas très sages à l'école. Et donc, c'est une vie à l'asile, dans le pire sens que ça peut avoir. Donc, la lobotomie a été une horreur parce que c'était au petit bonheur la chance. Puis, il faut oublier aussi les aspects financiers. Aux États-Unis, il y avait un psychiatre, donc américain, qui a parcouru de ville en ville, vous savez, comme le fameux docteur charlatan de Lucky Luke, il allait de ville en ville et il lobotomisait les gens avec un pic à glace, sans anesthésie. Et il a quand même fini devant les tribunaux, mais il s'est ramassé une fortune. Et tout ça, sans trop de problèmes éthiques. Là aussi, regardez, pendant la guerre de 39-45, il y a eu 250 000 malades mentaux allemands, 48 588 pour être précis en France, que les gouvernements, sous l'impulsion d'Hitler, ont fait mourir de faim. Et je dis bien fait mourir, et non pas laissé mourir de faim. Parce qu'il y avait un désir d'Hitler de supprimer, je parle pas allemand, mais la traduction c'est les vies sans valeur de vie. Les vies qui n'en valaient pas la peine. Et donc, fallait supprimer les handicapés physiques. Il y a beaucoup de gens, même des héros de la guerre de 14-18 en Allemagne, ont été supprimés. Les malades mentaux étaient aussi au premier rang. Et en France, ça n'a pas tardé à fuir, puisqu'on a donné, dans tous les hôpitaux de France et de Navarre, une suralimentation à tout le monde, sauf, et c'était dans le texte, dans les asiles d'aliénés, où ils n'avaient pas droit. Et là, ils sont morts comme des mouches. Le Vinatier, par exemple, 3000 malades hospitalisés, 2000 sont morts de faim.
Donc, de tout temps, mieux vaut ne pas naître ou être fou dans un monde de fous, Patrick Lemoine. Je reviens à la démarche collective de cet ouvrage. Pourquoi avoir voulu penser la folie avant la psychiatrie ?
C'était pour montrer que, en fait, le psychiatre, à la limite, Heureusement, je ne pense pas qu'en Occident, ça existe toujours. Je pense qu'il y a des pays où ça existe, malgré tout. Mais que le psychiatre n'est au fond que l'instrument d'une société qui souhaite se débarrasser, en période de crise, de ceux qu'elle considère comme inquiétants, déviants, en un mot, autres, aliénus. Et donc, pour bien montrer ça, on a voulu expliquer que les psychiatres sont presque un détail. Avant les psychiatres, l'Inquisition, le pharmakion, il y a des dizaines d'exemples où les fous étaient maltraités. Il y avait aussi des choses plus souriantes. Hein. Le baquet de Mesmer, c'était pas méchant. C'était un peu une escroquerie, mais c'était pas méchant. La phrénologie, c'était pas méchant. C'était délirant de la part des neurologues de l'époque, mais on n'était pas dans la maltraitance. Simplement, on voulait bien marquer que... Au fond, je suis pas en train de dédouaner les psychiatres.
Bah si, un peu.
Un petit peu quand même. Oui. Un petit peu. Mais disons que les psychiatres ne sont que l'instrument d'une société qui est quand même très rejetante vis-à-vis de la folie.
Sauf qu'aujourd'hui encore, les psychiatres, ce sont les sachants, ce sont les savants, en tout cas, de cette matière-là. Et ce que vous racontez aussi, c'est que, à travers beaucoup d'exemples, vous n'en savez souvent pas plus que nous.
Oh, ça c'est pas faux. Ça c'est pas faux du tout. Moi, je pense que un psychiatre, il a en fait, deux missions. Sa première mission, c'est de protéger les plus faibles parmi nos frères, parce que moi, je considère que s'il y a une nouvelle situation de crise, même en France, il faudra les protéger. Et là, on n'a pas trouvé tant que ça de psychiatres. Il y a eu quand même des héros, il y a eu des justes, si on peut dire, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont protégé en Allemagne, notamment l'Église catholique a protégé les malades mentaux pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de prêtres et de pasteurs qui ont été massacrés pour cette raison-là. Des psychiatres, il n'y en a pas eu tellement en Allemagne. En France, il y en a eu quelques-uns. J'en ai retrouvé quelques-uns dans mon bouquin « Droit d'asile », qui est un roman historique sur cette question-là. Et puis la deuxième mission, c'est quand même de soulager la souffrance. Parce que la psychiatrie, à mon avis, a le même niveau scientifique et les mêmes résultats que toute la médecine. Parce que la médecine, en fait, c'est bien rare qu'elle guérisse. À part l'infectieux et la traumato, citez-moi une maladie que la médecine guérit. L'hypertension, le diabète, l'ulcère chronique. Toutes ces maladies, on les soulage. Un diabétique, il a une espérance de vie normale. Dans mon métier, le syndrome d'apnée du sommeil, maintenant, ils ont une espérance de vie normale, mais on les guérit pas. Ils ont quand même toute leur vie une machine pour les aider à respirer la nuit. Donc je pense que le psychiatre, qui a d'aussi bonnes performances, autrefois un schizophrène, quand il rentrait à l'asile, c'était définitif. Il n'en ressortait que les pieds devant. Et encore, il n'en ressortait même pas les pieds devant, puisqu'il était enterré à l'asile, où il y avait le cimetière des fous. Donc maintenant, un schizophrène va passer l'immense majorité de son temps à l'extérieur, avec un dispositif d'assistance, où il aura une vie, certes, pas totalement épanouie. Il va peut-être assez rarement se marier, mais il aura une vie à l'extérieur. C'est plus du tout le croupissement qu'on pouvait observer du temps de l'asile.
Donc, à travers cette histoire de la folie, vous ouvrez aussi une réflexion sur le sens de la discipline et les bonnes pratiques, oui. Appelées aussi à renouveler la psychiatrie. Dans cet ouvrage collectif, Patrick Lemoine, vous signez un chapitre sur la théorie des humeurs. Alors, je vais vous présenter un cas et on va voir si vous arrivez à le diagnostiquer.
Qu'est-ce donc ? Qu'avez-vous ?
Laissez-moi, je vous prie.
Mais encore ? Dites-moi quelle bizarrerie!
Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher.
Mais on entend les gens au moins sans se fâcher.
Moi, je veux me fâcher. Et ne veux point entendre.
Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'amis, enfin, je suis tout des premiers.
Moi, votre ami? Rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être. Mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus et ne veux nulle place en des cœurs corrompus.
Est-ce que là, Patrick Lemoine, on a un cas flagrant de mélancolie? Et cela est, vous aurez reconnu...
Moi, je parlerai donc de misanthropie, c'est-à-dire de phobie sociale, et pas nécessairement de maladie. Parce qu'après tout, il avait bien le droit. Si je veux être anachorète ou ermite et vivre tout seul dans une grotte dans la montagne, j'ai le droit quand même, sans être qualifié de maladie. C'est un peu le projet du misanthrope. Autrement, si c'est pas une phobie sociale, on pourrait considérer que c'est un retrait dû à un épisode dépressif. Mais moi, j'y crois pas. parce que je ne vois pas dans le misanthrope tellement de signes de dépression. Je vois un type qui en a ras-le-bol de ses contemporains et qui a envie de prendre du recul. Pour moi, il n'est pas malade, le misanthrope.
Donc le misanthrope, ici incarné par Denis Podalydès de la Comédie-Française, le misanthrope ou l'atrabilaire amoureux. Ouais. Qu'est-ce que c'est un atrabilaire?
Un atrabilaire, là on est dans ce qu'on appelait les monomanies. Esquirol, donc c'est à l'époque où la France était leader en matière de psychiatrie, c'est bien loin maintenant, et où on classifiait les maladies en fonction des monomanies. Il y avait la lipémanie, c'était une forme de dépression, et il y avait des monomanies érotiques, les idéalistes passionnaires, enfin il y avait une classification qui était quand même un peu plus poétique que le DSM d'aujourd'hui ou le CIM-10 d'aujourd'hui. Simplement, l'atrabilaire, c'est quelqu'un qui était dans la théorie des humeurs. En d'autres termes, il y a eu une stupidité sans nom depuis Hippocrate, en passant par Aristote, Galien, et jusque pratiquement à l'orée du 19e siècle, qui s'appelait la théorie des quatre humeurs. Les Chinois, ils n'ont pas fait mieux, ils avaient cinq humeurs, mais c'était pareil. Hein. Et donc, toute maladie, physique ou psychiatrique, c'était un déséquilibre entre les humeurs. Dans les quatre humeurs, donc, vous aviez le sang, vous aviez le phlegme, la bile jaune et la bile noire. Alors, le problème, c'est que les trois premiers que j'ai cités, ils existent. Il y a du sang, il y a du phlegme. Hein. C'est, maintenant, on appelle ça la bile. Quelqu'un est phlegmatique, quelqu'un est sanguin, c'est resté dans le langage courant.
Oui, tu te fais de la bile.
Exactement. Mais l'ennui, c'est que la psychiatrie, c'est-à-dire la bile noire, la mélanoscolène, c'est-à-dire la mélancolie, c'est une humeur qui n'existe pas. Et donc, malheureusement, j'allais dire que j'ai un vrai délire de persécution en tant que psychiatre, mais la maladie psychiatrique était reposée sur un fondement inexistant. Et en même temps, moi, j'ai retrouvé des textes extraordinaires de description de cette humeur goudronneuse, visqueuse, épaisse, s'écoulant lentement dans les canaux du corps, mais d'un truc que personne n'a jamais vu, mais qui était décrit. Et donc, la mélancolie était l'apanage des gens tristes, des gens déprimés. Mais, Aristote, ou plutôt le pseudo-Aristote, donc là on est au 3-4e siècle après Jésus-Christ, il avait eu un aphorisme génial, c'est la mélancolie et la punition de l'homme supérieur. Il n'avait pas tout à fait tort, puisqu'on sait maintenant que le trouble bipolaire est génétiquement associé à l'intelligence et à la créativité. Hein, Mozart, Churchill, enfin les plus grands de leurs époques étaient tous des bipolaires, des maniaco-dépressifs. Donc Aristote avait dit, c'est la punition de l'homme supérieur, et c'est devenu très tendance à la Renaissance d'être mélancolique, et donc d'être né sous le signe de Saturne. Et vous retrouvez des gens comme Louis XI, comme Charles Quint, Marcille Ficin, qui proclamaient leur mélancolie de manière à être considérés comme des hommes supérieurs. Et c'est vrai que c'était des gens, peut-être pas trop Charles Quint, mais Louis XI était extrêmement brillant. Et quand il s'est affronté...
Ou les grands peintres, vous citez aussi Léonard de Vinci, Raphaël, de grands mélancoliques.
Tout à fait, Michel-Ange, c'était des gens qui étaient mélancoliques. Mais il y en avait, c'était vrai. Mais d'autres, c'était juste par snobisme. C'était très chic d'être mélancolique, d'être né sous le signe de Saturne.
Et donc cette conception plutôt positive de la mélancolie, elle va perdurer? On va arrêter d'essayer de soigner cette bile noire?
C'est quand même resté, effectivement, se faire de la bile, être mélancolique, c'est quand même resté. Bon, on croit plus trop quand même à l'ascendant saturnien des mélancoliques et des bipolaires, mais ça a duré très longtemps. Et pendant très longtemps, on a essayé d'évacuer cette bile noire de ces malheureux mélancoliques. Alors on en parle un peu avec humour, avec détachement, mais il faut quand même pas oublier que les mélancolique, malheureusement, le plus souvent, la corde est au bout du chemin.
France Culture avec le psychiatre Patrick Lemoine. On est ensemble jusqu'à 13h30. Vous signez avec Boris Cyrulnik et de nombreux autres auteurs une histoire de la folie avant la psychiatrie chez Odile Jacob. Il est 13h20.
France Culture. La grande table. Olivia Gesbert.
Une histoire de la folie et de ces folles idées qui peut vous permettre, à nous et à vous, psychiatres aujourd'hui, professionnels de nos cerveaux, de nos têtes et de nos humeurs, de réfléchir aussi à ce que peut être l'avenir de la psychiatrie. Aujourd'hui, la psychiatrie est un secteur paupérisé et en souffrance. Ça, c'est le diagnostic qu'en faisait encore récemment la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Écoutez-la.
Le problème, c'est vraiment l'organisation, la démographie médicale, comment on forme de nouveaux psychiatres, comment on accède à des psychologues. Et puis aussi, il y a une question de pratique en psychiatrie. Il y a certains hôpitaux psychiatriques qui, malheureusement, ne répondent pas aux bonnes pratiques et qui sont mis en difficulté par les autorités quand elles viennent visiter sur place et qui s'aperçoivent que...
Mais donc, en tout cas, un plan, une volonté de mobiliser...
Ah, il y a une volonté ferme, je vous l'ai dit.
Parce que le cancer, ça a avancé. Kayat le dit encore aujourd'hui, que ça a été rendu possible par cette mobilisation.
Oui, mais ça répond...
Les psychiatres demandent la même chose, on les a entendus sur France Inter.
Oui, mais ça répondait en fait à de nouvelles pratiques et au progrès médical. La psychiatrie, c'est autre chose, et donc ça nécessite que la psychiatrie revienne dans le giron de la médecine, se rapproche de la médecine qu'on appelle somatique, c'est-à-dire les soins courants, parce que ça a été trop longtemps considéré comme complètement à part, on a exclu la psychiatrie. D'ailleurs, les hôpitaux psychiatriques sont parfois en dehors des hôpitaux, ou en dehors même des villes, et donc il faut réintégrer, il faut une psychiatrie inclusive, complètement intégrée au système de santé, et qui bénéficie des mêmes avancées.
La ministre Agnès Buzyn, chez le confrère de France Inter, Patrick Lemoine, est-ce qu'il faut réintégrer la psychiatrie ? Est-ce que l'inclure comme un champ traditionnel de la médecine, c'est enfin la normaliser ?
Oui et non. Bon, j'ai énormément de respect et même d'admiration pour Agnès Buzyn et j'adhère à la majorité des choses qu'elle a dites dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Néanmoins, elle oublie une donnée démographique évidente. Elle dit que la psychiatrie manque de moyens, on manque de psychiatres. Sauf qu'en France, on a 2 à 3 fois plus de psychiatres que dans tous les pays développés au monde. 2 à 3 fois plus. Allez en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, en Italie, partout, il y a 2 à 3 fois moins de psychiatres qu'en France. Or, partout ailleurs, vous avez un rendez-vous dans un délai raisonnable de 8-15 jours. En France, c'est 1 an, parfois pas de rendez-vous pour des patients nouveaux.
Oui, c'est pas parce qu'on a moins besoin de psychiatres ailleurs qu'en France. On est peut-être plus fous que les autres. Déprimés.
Non. L'épidémiologie est la même. Il y a autant d'anxieux, de déprimés, de fous en France que partout ailleurs. C'est pas la question. Le problème, c'est que les psychiatres en France font pas de psychiatrie.
Ils font quoi?
Ils font de la psychanalyse, de la psychothérapie. C'est pas leur job. Et la différence, l'exception française, une de plus, c'est que partout ailleurs, les gens qui ont des techniques efficaces, comme les thérapies cognitives et comportementales, l'hypnose, la relaxation, toutes les autres techniques non pharmacologiques et qui marchent, ils sont pris en charge par les mutuelles. En France, rien. Le jour où le gouvernement, et je plaide depuis des années dans ce sens, quel que soit, moi je suis pas politisé, quel que soit le gouvernement, prenait un tout petit peu en charge les psychologues, qui sont des gens remarquables, qui font des psychothérapies, mieux que les psychiatres. Pourquoi ? Parce que les psychiatres, ils ont toujours dans la tête, bon si ça marche pas, je lui filerai un médoc. Et quand on n'a pas cette tentation, parce qu'on peut pas prescrire, ben forcément on est plus performant. Donc le jour où la sécurité sociale aura compris que c'est son intérêt, parce qu'une consultation de psychologue, ça coûte moins cher qu'une consultation de psychiatre, et qu'ils sont pris en charge, eh bien, les psychiatres, on s'apercevra brutalement qu'ils sont vachement nombreux, qu'il y en a bien assez, et qu'il n'y a pas besoin tellement de moyens supplémentaires. Je vais me faire tuer par mes confrères, c'est pourtant ce que je pense. Et on est dans une situation complètement, que les psychiatres appellent, de double lien. Par exemple, en matière d'insomnie, ça c'est mon métier, ou d'anxiété, c'est aussi un peu mon métier. L'agence de santé nous dit, faut pas prescrire de médicaments, ça marche pas, et c'est toxique, et c'est dangereux. Il faut faire des thérapies cognitives et comportementales, il faut faire de l'hypnose, de la relaxation. Ah oui, mais on ne prendra en charge que les médicaments, on prendra pas le reste. Comment ils font les généralistes? Puisque les psychiatres sont inaccessibles, parce qu'ils sont trop pris, et puisque les psychologues sont inaccessibles parce que pas pris en charge, ben ils filent des médicaments et on retombe dans la même ornière.
Patrick Lemoine, il y a peut-être une solution pour vous décharger un peu au quotidien et vous permettre de vous occuper des vrais malades, c'est peut-être de transférer une partie de vos patients vers les psys du futur. La psy du futur sera-t-elle virtuelle ? Désormais, les patients pourraient être traités à distance grâce à un logiciel d'intelligence artificielle, se faire analyser par un psychologue virtuel. Merci les amis. Extrait.
Hi, I'm Ellie.
Bonjour, je suis Ellie. Merci d'être venue aujourd'hui. J'ai été créée pour parler avec les gens dans un environnement sûr et sécurisé. Je ne suis pas thérapeute, mais j'aime apprendre à connaître les gens et j'aimerais beaucoup en savoir plus sur vous. Je vais vous poser quelques questions pour commencer. Sentez-vous totalement libre de répondre. Vos réponses resteront confidentielles. Quand est-ce que vous vous êtes senti heureux pour la dernière fois?
When was the last time?
Quand est-ce que c'était la dernière fois?
I don't know.
Je ne sais pas. Je crois que c'était probablement il y a quelques mois.
Je vous ai senti hésitant. Diriez-vous que vous êtes de manière générale une personne heureuse?
Je suis généralement heureux. C'est juste que ces derniers temps, il y a des choses qui me
déprime.
Pourriez-vous m'en dire plus là-dessus?
En quoi elle vous interroge, vous, psychiatre Patrick Lemoine, cet extrait, cette vidéo?
Elle m'interroge tellement que j'ai même organisé un débat, une battle, comme on dit aujourd'hui, pas plus tard qu'avant-hier, autour de cette vidéo, qui est extrêmement célèbre dans le milieu, où on voit effectivement une jeune femme, charmante au demeurant, qui pose les bonnes questions les plus pertinentes. En plus, en même temps, l'homme, le malade, qui est un vrai malade, il y a tout un logiciel de reconnaissance du visage qui fait que, immédiatement, le logiciel est capable de dire s'il y a une pulsion suicidaire ou s'il va péter les plombs. Bref, il y a un système idéal dans le meilleur des mondes.
Et qui fait un, comme on peut l'imaginer, et qui vous dit précisément.
Il est capable même de donner une bonne tape dans le dos virtuelle, par exemple, quand il dit « I'm from Los Angeles ».« Ah, oh, me too, I am from L.A. » Je suis de ça. « Ah, moi aussi ». Donc c'est un truc presque au niveau...
Transfert immédiat.
et ça...
Alors, cette battle, il en est ressorti quoi?
Et moi, ce qui me fait... les psychiatres étaient quand même un petit peu inquiets. Alors, évidemment, il y a l'inquiétude toujours de se retrouver au chômage, comme on a eu à chaque fois qu'il y a eu un robot qui a remplacé... les caissières dans les supermarchés sont inquiètes de voir les scanettes qui les remplacent progressivement. C'est un peu pareil, les psys, il ne faut pas se voiler la face. Il y a l'aspect financier et chômage. Mais d'un autre côté... Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils ont fait une enquête de satisfaction de tous les patients qui sont passés devant ce robot virtuel. Et ils sont unanimement contents. Et pour moi, c'est la preuve que c'est mauvais. Parce que un psychiatre, il doit avoir deux caractéristiques. Un, toute prise en charge doit être inventée. Si c'est une répétition, ça ne fonctionne pas, ça doit être inventé. Et deux, un psychiatre, c'est quelqu'un qui s'est frustré, qui sait dire non. Et moi, quand un patient n'est pas très content en me quittant, je me dis, finalement, j'ai peut-être fait de l'assez bon boulot.
Et puis, autre question, celle de la collecte des données travers ces psys virtuels. L'un des co-auteurs de cet ouvrage collectif, Stéphane Mouchabak, Big Doctor ou Big Brother, où iront toutes ces informations a priori confidentielles quand on les porte dans l'oreille d'un psy? Où est-ce qu'elles iront par la suite? Il nous reste une minute. Vous évoquiez l'importance de réformer la psychiatrie aujourd'hui. Vous parlez tous d'une nécessaire évolution. Alors, comment inventer une histoire de la folie après la psychiatrie? Quelle sera la nouvelle page à écrire?
Je pense qu'il faudra quand même céder de l'intelligence artificielle qui sera une aide, parce que effectivement, nous sommes faillibles et avoir une machine qui est capable quand même de détecter un risque de suicide, c'est quand même utile. D'un autre côté, je pense qu'il va falloir que les psychiatres fassent comme les ophtalmos, comme les rhumatos, s'entourer de gens compétents. On a besoin de psychothérapeutes autour de nous. Et enfin, il va falloir que les psychiatres arrêtent de faire confiance aux médicaments et qu'ils arrêtent de prescrire autant, parce que le drame de la psychiatrie française, là encore je vais être tué par mes confrères, mais le drame de la psychiatrie française, c'est la surprescription.
Merci beaucoup à vous, Patrick Lemoine. Je rappelle que vous êtes le co-directeur de cet ouvrage collectif avec Boris Cyrulnik, Histoire de la folie avant la psychiatrie, qui paraît chez Odile Jacob. Merci aussi à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Neskovic et à Laura Dutech pour La Grande Table des idées, à Oriane Delacroix et à Henri Leblanc pour La Grande Table culture, avec l'aide précieuse de Jordan Joseph et de Jeanne Copé. À la réalisation aujourd'hui, Marie Placet avec Alex Dang. Je vous souhaite un très bel après-midi à tous sur France Culture.